Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Certains parmi vous ont pu entendre dans notre émission de la semaine dernière la lecture des premières pages du dernier roman d'Amélie Nothomb, Une forme de vie. Nous vous proposons aujourd'hui de poursuivre le récit de cette étrange relation qui se noue au fil des lettres échangées entre Melvin Maple, soldat américain sur le front irakien, et l'auteur elle-même, Amélie Nothomb. Souvenez-vous, Melvin Maple est basé à Bagdad depuis plus de 6 ans. La lecture de tous les romans d'Amélie Nothomb l'a convaincu que seule cette dernière est en capacité de comprendre sa souffrance. Il décide de lui écrire. Melvin s'est engagé dans l'armée dans l'unique but de pouvoir manger à sa faim. Il n'est pas préparé à la guerre. Il découvre la terreur, les corps déchiquetés, la barbarie, l'horreur. Au bout de quelques lettres, il ose enfin parler à Amélie Nothomb de ce mal qui le fait souffrir. Depuis son arrivée en Irak, il a pris 100 kilos. Il est obèse, comme bon nombre d'autres soldats. On revient du combat, choqué, éberlué d'être vivant, épouvanté. Et la première chose qu'on fait après avoir changé de pantalon, on souille le sien à tous les coups, c'est de se jeter sur la bouffe. C'est pas croyable ce qu'on peut avaler. On est fou. Quelque chose est cassé en nous. On ne peut pas dire qu'on aime manger comme ça, c'est plus fort que nous. On pourrait se tuer de nourriture. C'est peut-être ce qu'on cherche. Au moment où nous l'avons quitté la semaine dernière, Melvin venait de confier à Amélie Nothomb que pour continuer à vivre, il s'est inventé une belle jeune femme, Scheherazade, qui vient, le soir, s'allonger sur lui, prenant la place de ses kilos de graisse. Reprenons donc maintenant le fil de cette surprenante correspondance.
C'est avec fièvre que j'attendis la prochaine épître de Melvin. J'étais continuellement assaillie d'images incroyables. Je voyais tour à tour des Irakiens déchiquetés, des explosions qui me fissuraient le crâne, puis des soldats américains baffrant de façon traumatisante jusqu'à reproduire dans leur ventre les explosions du front. Je voyais l'embonpoint gagnant du terrain, les positions perdues les unes après les autres à mesure que la taille au-dessus devenait indispensable, un front de gras se déplaçant sur la carte. L'armée des États-Unis formait une entité qui enflait. On eût dit une gigantesque larve absorbant des substances confuses, peut-être les victimes irakiennes. Parmi les unités militaires, il y a le corps, et ce que je voyais devait en être un, pour autant que l'on puisse reconnaître ce mot dans cette efflorescence de graisse. En anglais, « corpse » signifie « cadavre ». En français, ce n'est qu'une possibilité du mot « corps ». Un corps obèse est-il vivant? La seule preuve qu'il n'est pas mort, c'est qu'il grossit encore. C'est ça, la logique de l'obésité. Ensuite, je voyais quelqu'un qui pouvait être Melvin Maple et qui, couché, suffoquait dans la nuit. Je calculais que sur les 100 kilos acquis, se situaient sur la poitrine et le ventre, devait en représenter la moitié. 50 kilos pour Scheherazade était un poids vraisemblable. Je croyais donc en l'existence de l'amante allongée sur son cœur, et je voyais l'idylle, la conversation intime, le surgissement de l'amour, là où on l'attendait le moins. En 6 années de guerre, on avait dépassé les 1001 nuits. Qui veut faire l'ange fait la bête, on le sait depuis Pascal. Melvin Mapol ajoutait sa version « Qui veut faire la bête fait l'ange ». Certes, il n'y avait pas que de l'angélisme dans son récit, loin de là, mais la puissance de la vision qui permettait à mon correspondant de survivre à l'intolérable forçait le respect. Au salon du livre de Paris, parmi les gens venus me demander une dédicace, il y eut une jeune fille obèse. La lettre de Melvin m'avait à ce point contaminé que la demoiselle me parut frêle, lovée dans l'étreinte d'un Roméo annexé à son corps.
Chère Amélie Nothomb, votre réaction me touche. Cependant, j'espère que vous ne vous exagérez pas le lyrisme de ma situation. Vous savez, même si Obama est président, la guerre n'est pas finie. Elle ne le serait que si le camp d'en face le considérait. Aussi longtemps que nous serons ici, nous serons en danger. Bien sûr, il n'y a plus ces assauts atroces qui m'ont rendu boulimique. Mais la moindre sortie nous transforme en cible, et il y a encore des tués dans nos rangs. C'est qu'on nous en veut ici, et sans doute y a-t-il de quoi. Les obèses de mon espèce sont toujours en première ligne. Inutile de vous en expliquer la raison, elle saute aux yeux. Un obèse constitue le meilleur bouclier humain. Là où un corps normal protège un seul individu, le mien en protège 2 ou 3. D'autant que notre présence joue un rôle de paratonnerre. Les Irakiens souffrent tant de la faim que notre obésité les nargue. C'est nous qu'ils veulent dégommer en premier lieu. Ma conviction est que les chefs américains veulent la même chose. C'est aussi pour ça que les obèses sont assurés de rester ici jusqu'au dernier jour fixé par Obama, pour multiplier les probabilités de notre assassinat. Après chaque conflit, on a vu revenir aux États-Unis des soldats atteints de pathologies abominables qui ont donné mauvaise conscience au pays entier. Mais l'étrangeté de ces troubles était telle que la population pouvait mettre ça sur le compte de ce qui, dans la guerre, dépasse l'entendement humain. L'obésité, elle, n'est pas bizarre en Amérique. Elle est seulement ridicule. Même si elle est une maladie, elle est rarement perçue comme telle par les gens ordinaires qui parlent encore de nous en termes de trop bien portants. L'armée des USA peut tout accepter, sauf d'être grotesque. « Vous avez souffert ? Ça ne se voit pas. » Ou « Qu'est-ce que vous avez fait en Irak à part manger ?» sont les réflexions que nous récolterons. Nous aurons de vrais problèmes avec l'opinion publique. Il est indispensable que l'armée américaine véhicule une image virile, de force dure et courageuse. Or, l'obésité qui nous encombre de seins et de fesses énormes donne une image féminine de mollesse et de pleutrerie. Les caporaux ont essayé de nous mettre au régime. Impossible. Notre gloutonnerie nous rend capables de tout. La nourriture est une drogue comme une autre, et il est plus facile de dealer des donuts que de la coke. Pendant la période de prohibition alimentaire qu'ils nous ont imposée, nous avons grossi encore plus qu'en temps ordinaire. Ils ont levé l'embargo sur la bouffe et notre prise de poids a retrouvé sa vitesse de croisière. La drogue. Parlons-en. Une guerre moderne ne se supporte pas sans stupéfiants. Au Vietnam, les nôtres avaient l'opium, qui, quoi qu'on en dise, suscite une dépendance très inférieure à celle qui est désormais la mienne pour les sandwichs au pastrami. Quand les boys des années 60-70 sont rentrés au pays, aucun n'a replongé dans l'opium, substance difficile à se procurer aux USA. Quand nous retournerons chez nous, comment nous sèvrerons-nous de la junk food qui sera à portée de main? Les chefs auraient bien mieux fait de nous distribuer de l'opium, nous ne serions pas obèses à l'heure qu'il est. De toutes les drogues, la bouffe est la plus nocive et la plus addictive. Il faut manger pour vivre, paraît-il. Nous, nous mangeons pour mourir. C'est le seul suicide à notre disposition. Nous semblons à peine humains tant nous sommes énormes. Pourtant, ce sont les plus humains d'entre nous qui ont sombré dans la boulimie. Il y a des gars qui ont toléré la monstruosité de cette guerre sans tomber dans aucune forme de pathologie. Je ne les admire pas. Ce n'est pas de la bravoure. C'est un manque de sensibilité de leur part. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. À supposer qu'il y ait eu des doutes sur la question, il n'y en a plus aujourd'hui. Ce conflit était donc une injustice scandaleuse. Je n'essaie pas de me blanchir. Si je suis moins coupable que George W. Bush et sa bande, je suis coupable quand même. J'ai participé à cette horreur. J'ai tué des soldats, j'ai tué des civils. J'ai explosé des habitations dans lesquelles il y avait des femmes et des enfants, morts par ma faute. Parfois, je me dis que Scheherazade est l'une de ces Irakiennes que j'ai massacrées sans les voir. Sans métaphore, je porte le poids de mon crime. Je peux m'estimer heureux, Scheherazade aurait de bonnes raisons de me haïr. Or, la nuit, je sens qu'elle m'aime. Allez comprendre, je hais ma graisse et celle-ci me torture toute la journée. Vivre avec ce fardeau me supplicie, mes victimes me hantent. Et pourtant, dans ce tas de chair, il y a Scheherazade qui, après l'extinction des feux, me donne de l'amour. C'est elle que je suis probablement son assassin. Je le lui ai murmuré en réponse à certaines de ses déclarations. Ça n'a pas eu l'air de la déranger. L'amour est un mystère. Je déteste ma présence à Bagdad. Cependant, je n'ai pas très envie de rentrer à Baltimore. Je n'ai pas dit aux miens que j'avais pris plus de 100 kilos. Leur réaction me terrifie. Je suis incapable de me mettre au régime. Je ne veux pas perdre Scheherazade. Maigrir, ce serait la tuer une deuxième fois. Si mon châtiment pour ce crime de guerre est de porter sous forme d'embonpoint ma victime, je l'accepte. D'abord parce que c'est justice. Ensuite, parce que d'inexplicable manière, j'en suis heureux. Ce n'est pas du masochisme, je ne suis pas de cette espèce. En Amérique, au temps de ma minceur, j'ai eu pas mal d'histoires avec des femmes. Elles se sont montrées généreuses avec moi, je n'ai pas à me plaindre. Parfois, j'ai même été amoureux. Comme chacun sait, faire l'amour avec celle qu'on aime, c'est le sommet du bonheur terrestre. Eh bien, ce que je vis avec Scheherazade est supérieur. Est-ce parce qu'elle partage mon intimité de la façon la plus concrète? Ou est-ce tout simplement parce que c'est elle? Si mon existence n'était composée que de nuit, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais il y a les jours qui m'accablent au sens propre du terme. Il faut transporter ce corps. On ne dira jamais assez le calvaire de l'obèse. Les esclaves qui ont bâti les pyramides n'étaient pas si chargés que moi, qui ne peut déposer mon fardeau à aucun instant. La joie simple de marcher d'un pas léger, sans me sentir écrasé, me manque terriblement. J'ai envie de crier aux gens normaux de profiter de cet invraisemblable privilège dont ils ne paraissent pas conscients, gambader, se mouvoir avec insouciance, jouir de la danse des déplacements les plus ordinaires. Dire qu'il y en a pour râler d'aller à pied faire les courses, d'effectuer un trajet de 10 minutes jusqu'à la station de métro. Mais le pire, c'est le mépris. Ce qui me sauve, c'est que je ne suis pas le seul obèse. La solidarité des autres m'empêche de sombrer. Subir les regards, les réflexions, les brimades, c'est le comble de la souffrance. Je ne sais pas comment je me conduisais jadis avec les tas de graisse que je croisais. Étais-je un salaud avec eux, moi aussi? Avec toujours cette bonne conscience, car enfin, si le gros est gros, il l'a bien cherché, on n'est pas gros pour rien. Donc, allons-y, on a le droit de le lui faire payer. Il n'est pas innocent. C'est la vérité. Je ne suis pas innocent, ni au moral, ni au physique. J'ai commis des crimes de guerre, j'ai bouffé comme un monstre. Or, parmi ceux qui se permettent ici de me juger, personne ne vaut mieux que moi. Nos rangs ne sont composés que d'assassins de ma sorte. Qu'ils n'aient pas grossi prouve que leurs méfaits ne leur pèsent pas sur la conscience. Ils sont pires que moi. Quand mes compagnons et moi, nous nous goinfrons, les soldats minces nous gueulent dessus. « Putain, les gars, arrêtez! Vous nous dégoûtez? On a envie de vomir en vous voyant bouffer !» On ne dit rien, mais entre nous, on en parle. C'est eux qui nous dégoûtent de manger normalement, d'avoir massacré des civils sans que leur mode de vie en soit modifié, sans qu'ils manifestent le moindre traumatisme. Certains les défendent en prétendant qu'ils souffrent peut-être d'un mal secret. Comme si un mal secret pouvait expier des crimes si peu secrets. Nous, au moins, nous arborons notre culpabilité avec ostentation. Nos remords ne sont pas discrets. N'est-ce pas témoigner beaucoup d'égards envers ceux que nous avons si gravement offensés? Nous-mêmes, nous aborrons l'appellation de gros. Nous nous appelons entre nous les saboteurs. Notre obésité constitue un formidable et spectaculaire acte de sabotage. Je voudrais leur nuire davantage. Hélas, j'appartiens à une espèce assez inoffensive. C'est encore en bouffant que je sabote le plus le système. Le problème est la dimension kamikaze de mon acte. Je me détruis plus que je n'atteins ma cible. Quand même, je suis assez fier de ma dernière victoire. Je n'entre plus dans les tanks. La porte est trop étroite. Tant mieux, j'ai toujours eu horreur d'être dans ces machins qui rendent claustrophobes et où l'on n'est pas si protégé qu'on le croit. Vous avez vu la longueur de ma lettre? Je n'en reviens pas d'avoir tant écrit. J'en avais besoin. J'espère que je ne vous gaffe pas. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 17 mars 2009.
D'habitude, je ne raffole pas des longues missives. Ce sont généralement les moins intéressantes. Depuis plus de 16 ans, j'ai reçu un si grand nombre de courriers que, sans le vouloir, j'ai développé une théorie instinctive et expérimentale de l'art épistolaire. Ainsi, j'ai observé que les meilleures lettres ne dépassent jamais de feuilles à 4 recto verso. J'insiste sur le recto verso. L'amour des forêts contraint à l'opistographie. Ceux qui s'y refusent, au nom d'une vieille règle de politesse, ont d'étranges priorités. Ce n'est pas absurde. Il y a de l'irrespect à s'imaginer avoir plus à dire et le manque d'égard ne rend pas intéressant. Madame de Sévigné l'a très bien dit. Pardonnez-moi, je n'ai pas le temps de faire court. Elle illustre d'ailleurs très mal ma théorie. Ses épîtres sont toujours passionnantes. Très différent de Madame de Sévigné, Melvin Maple m'offrait un sacré contre-exemple de plus. Ses lettres ne me paraissaient même pas longues. Tant elles me captivaient. On les sentait écrites sous l'empire de la plus absolue nécessité. Il n'est pas de meilleure muse. Je ne pouvais faire autrement que d'y répondre aussitôt, contrairement à mes usages.
Cher Melvin Maple, merci pour votre courrier qui m'intéresse de plus en plus. Ne craignez pas de me gaver. Vous ne m'écrirez jamais assez à mon gré. Oui, votre boulimie, comme celle de vos comparses, est un acte de sabotage. Je vous en félicite. On avait déjà entendu le slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Vous, c'est « Faites le gueuleton, pas la guerre ». C'est infiniment louable. Mais j'ai conscience du danger que vous courez et je vous prie, dans la mesure du possible, de prendre soin de vous. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris, le 24 mars 2009.
Chère Amélie Nothomb, votre lettre m'arrive au bon moment. Mon moral est au plus bas. Hier, nous nous sommes attrapés avec les maigres du contingent. C'était pendant le dîner. Nous, les obèses, nous avons l'habitude de manger ensemble. Ça nous permet de baffrer sans complexe entre nous et de ne pas essuyer les regards et les remarques désobligeants. Quand l'un se surpasse en bouffant encore plus, nous le congratulons d'un propos louangeur de notre invention. « That's the spirit, man !» Cette phrase déclenche notre hilarité. Allez savoir pourquoi. Hier soir, sans doute à cause du manque de combat de ces derniers temps, les autres sont venus autour de notre table pour nous provoquer. Ça a vite dégénéré. Bozo s'est levé le premier pour cogner un maigrichon. J'ai essayé de l'en empêcher. « Tu vois bien que c'est ce qu'il veut. Il va l'avoir. Non, tu seras envoyé au trou. Personne m'y mettra. Il faudra élargir la porte du trou, a gueulé le petiot. » Là, je n'ai plus pu retenir Bozo. La bagarre a éclaté. Les gros ont l'avantage, a priori, c'est évident. Notre masse terrasse n'importe qui. Notre talon d'Achille, c'est la chute. Si on tombe, on a du mal à se relever. Les autres avaient bien compris le truc. Du coup, ils se plaquaient à nos chevilles, essayaient le croc en jambes ou roulaient à terre comme des bouteilles dans nos pieds. Plumpy a chuté. Ils se sont rués sur lui et l'ont tabassé. On est venu à la rescousse. On arrachait les minus qui s'acharnaient sur le corps de Plumpy, comme si c'était des poux. Un cuistot est entré avec un plat de chili con carne. Un type lui a arraché la casserole des mains et a versé le chili bouillant sur la tête de Plumpy en riant. « T'as faim ? Bouffe !» Le malheureux a hurlé. Le cuistot a alerté les autorités qui sont venues nous mettre en joue. Ça a calmé le jeu. Mais le pauvre Plumpy a le visage brûlé au deuxième degré. Et salaud ! Il y a eu des sanctions. Pas uniquement contre les maigres. Pendant l'espèce de jugement, on a eu beau dire que c'était une provocation, ça ne nous a pas blanchi. Un type a même protesté que nous étions des provocations sur pattes, à cause de nos dimensions, et l'autorité n'a pas contesté. On sentait qu'ils étaient d'accord. Après cette parodie de justice, nous avions le moral par terre. C'est ça qui est terrible aussi. Même nos amis ne nous comprennent pas. L'obésité n'est pas une expérience communicable. Là, j'ai pensé à vous. C'est peut-être une illusion due à la correspondance, j'ai l'impression que vous me comprenez. Je sais que vous avez souffert de problèmes alimentaires, mais très différents. Ou alors, c'est parce que vous êtes écrivain. On imagine, peut-être naïvement, que les romanciers ont accès à l'âme des gens, aux expériences qu'ils n'ont pas vécues. Ça m'avait frappé dans « De sang-froid » de Truman Capote. Cette impression que l'auteur connaissait intimement chaque personnage, même secondaire. Je voudrais que vous me connaissiez comme ça. C'est sans doute un souhait absurde, lié au mépris dont je suis l'objet et dont je souffre. Il me faut un être humain qui soit en dehors de tout ça et qui en même temps soit proche de moi. C'est ça un écrivain, non? Vous me direz qu'il y a d'autres écrivains et qu'en plus, l'anglais n'est pas votre première langue. Je sais. Mais c'est vous qui m'inspirez ça. Je n'y peux rien. J'ai passé en revue dans ma tête tous les romanciers vivants. Bien sûr, j'avais lu un article dans lequel vous disiez que vous répondiez à votre courrier, ce qui n'est pas fréquent. Cependant, je vous jure que ce n'est pas pour cette raison. C'est comme si, avec vous, tout était possible. J'ai du mal à l'expliquer. Rassurez-vous, je ne vous prends pas pour un psy. Des psys, il n'en manque pas ici. J'en ai essayé plusieurs. On leur parle 3/4 d'heure dans le plus profond silence et puis ils vous prescrivent du Prozac. Je refuse d'avaler ça. Je n'ai rien contre les psys. Seulement ceux de l'armée américaine ne me convainquent pas. Ce que j'attends de vous est différent. Je veux exister pour vous. Est-ce prétentieux? Je l'ignore. Si ça l'est, pardonnez-moi. C'est ce que je peux vous dire de plus vrai. Je veux exister pour vous. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 31 mars 2009.
Les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X, les uns pourraient-ils soulager les autres? Sans doute, le propos n'est pas nouveau. Mais ce roman pose d'autres questions. Par cette correspondance qui s'établit entre proximité et distance entre lecteur et auteur et la romancière, qui fait quoi? Qui écrit? Qui fictionne? En quoi la transformation de nos mots en performance en fait-il un mode libératoire, voire une création? Ce sont d'autres questions. D'autre part, un personnage toujours dédoublé comme la fameuse Scheherazade appelle à une expression poétique de l'obésité. Qu'est-ce que la vérité? Où se situent les frontières entre auteur, œuvre, lecteur? Ce sont les interrogations qui nous restent et ficellent ce 66e roman de la prolifique Amélie Nothomb que nous vous conseillons de lire, voire de dévorer. Cette émission a été ponctuée par les pauses musicales données par le musicien Albert Heller et elle a été préparée et lue par
Marie Béraille,
Yvan Davy,
Anne Pronot et à la technique, il y avait
Vincent Blanc,
Claude-Michel Pugnat. À bientôt. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.